On peut tourner ensemble dans le psaume 98. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis ensuite de ça, on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, on est assemblés ce matin pour te célébrer, Seigneur, pour chanter tes louanges, pour reconnaître que tu es Dieu, que tu règnes dans les cieux et sur la terre, que tu règnes depuis la création du monde, mais que tu règnes particulièrement, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Tu t'es fait connaître à nous. Nous avons connu en toi un Sauveur, un Dieu merveilleux qui nous aime, qui nous chérit, qui prend soin de nous. Seigneur, nous avons connu la délivrance qu'il y a en toi, lorsqu'on peut aller vers toi, Seigneur, se confier en toi. Seigneur, je te demander ce matin de venir parler à nos cœurs de cette louange qui doit nous habiter, de cette célébration, cette confiance de savoir que tu es Dieu et que tu règnes. Seigneur, j'aimerais te prier ce matin pour tous ceux et celles dans cette salle qui n'ont pas découvert le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui marchent et qui essaient de conduire leur propre vie sans être à l'abri, Seigneur, de cette grâce qu'il y a d'être en toi. Je te demande de venir parler à leur cœur ce matin. Et Seigneur, viens remplir nos cœurs de louange. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du psaume 98 dans la nouvelle édition Genève. Alors, le psaume 98, nouvelle édition Genève. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité.
Merci, Danny. Essayez de deviner quel cantique, vieux cantique chrétien est inspiré de ce psaume-là. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Non? Si je vous dis Isaac Watts, ça vous dit quelque chose? What? Ça vous dit rien pantoute. 1719, Isaac Watts a écrit Joy to the World. Ça vous dit quelque chose, ça? Le poème, il n'a pas écrit la musique. Joy to the World, bam, 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 bam. Non, je suis faux en plus, hein? En tout cas, c'est lui qui a écrit ça. Et donc, c'est un chrétien qui a écrit ça en 1719 en lisant un psaume dans l'Ancien Testament, hein? Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Qu'est-ce qu'on doit tirer de ce psaume-là? Et il voyait dans ce psaume-là une source de joie pour tous les êtres humains sur la terre. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là? Qu'est-ce qu'il a puisé dans ce psaume? Juste pour se mettre en contexte, les psaumes 96 à 99 portent tous un peu les mêmes thèmes, d'accord? Donc, si ça vous tente cette semaine, vous allez lire psaume 96, 97, 98, 99... Tous des psaumes d'exaltation, mais tous des psaumes qui parlent de royauté, de la royauté de Dieu, de la grandeur de Dieu, du Dieu qui règne, du Dieu qui revient bientôt aussi. Et donc, ce sont tous des psaumes de joie. À travers la série, on veut apprendre à grandir dans notre vie de prière. On se tourne vers les psaumes, puis on a appelé la série « Carnet de voyage ». On se tourne vers les psaumes parce que la prière devrait être l'endroit où on va à tout moment de la journée. Les psaumes, c'est un recueil de prières. Souvent de prières chantées, mais c'est un recueil de prières. Les chrétiens, comme les juifs, apprennent depuis des millénaires à prier en lisant les psaumes. Et donc, on a vu jusqu'à présent, à travers la série, plusieurs psaumes où on va trouver un réconfort en Dieu. On va vers Dieu quand tout va mal, quand on est découragé parfois de nous-mêmes. Mais il y a tout un autre aspect au psaume qui est l'exaltation, la joie, la louange. Et j'écoute plein de trucs, je suis plein d'affaires sur des podcasts, tout ça, puis c'est frappant à quel point notre société cherche à se motiver. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel qui sert à la motivation. Et c'est une vision, chercher à avoir une vision positive de la vie, avoir confiance en toi. Mais dans ce psaume-là, le livre des psaumes, la parole de Dieu, nous apprend qu'un chrétien va premièrement chercher sa motivation et sa joie. Le pep dont il a besoin pour fonctionner dans la vie, se lever chaque matin et puis dire « Cette journée-là, par la grâce de Dieu, va être une journée extraordinaire. » Où je vais entrer dans de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Le chrétien va chercher ça en Dieu, premièrement, en fixant les regards sur Dieu. Et la louange, c'est particulièrement ce moment où je vais dans la prière, puis je fixe les regards sur Dieu. La prière, c'est un endroit où, d'une part, je suis honnête avec moi-même. On l'a dit depuis le début de la série, la prière, c'est un endroit où j'entends mon cœur penser. Il y a il y a plus d'image, je suis seul avec Dieu, je sais que je suis à nu devant lui, il voit toutes mes pensées, et j'apprends à connaître ma vraie théologie, j'apprends à connaître ma vraie foi, j'apprends à voir vraiment, est-ce que vraiment j'ai confiance en Dieu, je le sais dans la prière. C'est là lorsque je suis dans la prière. Et donc, il y a une place dans la prière pour vraiment voir ce qui se passe dans mon cœur, pour être honnête avec Dieu quand je m'adresse à Dieu, mais il y a une place dans la prière pour complètement détourner les regards de moi, hein, puis les fixer sur Dieu. Et trouver en Dieu la joie, l'espérance. Et ce psaume-là est un psaume qui déborde de joie. Je résume comme ceci le message de ce matin, l'exposé de ce matin. Ce matin, on va voir ensemble que l'avenir des fils et des filles de Dieu est absolument radieux. Il est beau, car notre roi est victorieux. Il nous a sauvés et revient bientôt pour tout restaurer. On doit le louer. La louange doit faire partie de notre vie de prière, doit faire partie de notre quotidien, doit faire partie même de notre manière de faire face aux épreuves de la vie. L'avenir des fils et des filles de Dieu est absolument radieux, car notre roi est victorieux. Il nous a sauvés, il revient bientôt, on doit le louer. Et je pense que ce psaume-là va encore un peu plus loin. Tu peux bénir, tu peux aider quelqu'un qui ne connaît pas Dieu par ta louange. Ça se peut que ta louange soit le point de contact. Ta joie en Dieu soit le point de contact pour un ami, quelqu'un autour de toi, pour en venir à la connaissance de Dieu. Ce psaume-là annonce le retour du roi. Alors, prenez vos Bibles si vous ne les avez pas déjà en main, tournez dans le psaume 98. Ça annonce le retour d'un roi. Pas n'importe quel roi, Dieu lui-même, Dieu le roi qui revient bientôt. Regardez le verset 6, avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Et donc, c'est un psaume qui annonce le retour d'un roi, mais pas n'importe lequel, c'est Dieu lui-même. Puis ensuite de ça, au verset 9, il nous dit qu'il revient bientôt. Il s'en vient, il arrive, verset 9. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Il vient pour régner. C'est un roi. Il s'en vient pour régner. Il s'en vient pour restaurer toute chose. Il s'en vient pour gouverner. Il s'en vient pour juger. Et ça, ça pousse le peuple de Dieu dans la joie, dans l'exaltation. Ils attendent son retour. Et donc, Israël est à ce moment-là dans cette tension où ils ont été délivrés par Dieu, mais ils attendent un Messie. Ils attendent un autre Moïse qui doit venir et qui va venir restaurer toute chose et régner avec justice. C'est drôle comme les époques dans l'histoire de l'humanité puis dans les cultures changent notre manière de recevoir les textes bibliques. Énormément. Ça change notre manière de lire les passages. Ça change notre manière de comprendre, de voir qu'est-ce qu'il y a là. Voyez-vous, le psaume est rempli de joie. C'est la délivrance. Dieu est venu au secours d'Israël. C'est un roi. Il règne. On veut l'annoncer à toutes les nations de la terre. Puis tout va bien. Puis arrive le dernier verset. Arrive le dernier verset, c'est comme un psaume de louange, puis on arrive au dernier verset devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Puis là, c'est drôle, je pense qu'un contemporain, un nord-américain, un occidental, moderne, arrive là puis il dit, je comprends pas là, on est en train de faire de la louange, de quoi tu parles? Juge, c'est quoi l'histoire? Non? C'est bon, tu sais, on veut un roi qui nous libère, qui nous délivre, mais un roi qui vient pour juger, il me semble que c'est pas un party, cette affaire-là, là. C'est comme moins le fun. Et pourtant, pour Israël, c'était vraiment un grand sujet de joie. Voyez-vous, dans la littérature en général, pas juste la littérature chrétienne, mais quand vous remontez dans la littérature ancienne, la notion du retour du roi, pensez au roi Arthur. La notion du retour du roi, c'est bon signe. Si c'est un bon roi qui revient, il est parti en campagne, il est parti en guerre, puis il revient bientôt. Et pendant qu'il était absent, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a essayé de se partager le royaume, se déchirer le royaume, n'est-ce pas? Pensez, si vous êtes familier, au Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien, le retour du roi. Qu'est-ce qu'on attend? On attend le retour d'un roi juste. Bon, lorsqu'on connaît J.R.R. Tolkien, on connaît sa foi, on connaît sa théologie un petit peu, on sait de quel roi il est en train de parler à travers tout ça, mais c'est encore cette image-là, le retour d'un roi juste qui s'en vient rétablir la justice et donc qui va rendre possible aux bonnes gens du peuple de vivre une vie en sécurité, une vie de paix. Une vie où ils peuvent construire leur vie parce qu'il s'en vient établir toute chose. Il y a dans le cœur humain une aspiration profonde à un gouvernement qui gouverne avec justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et ceux qui viennent d'autres pays, qui ont décidé de quitter un pays à cause de l'instabilité politique, à cause du manque de sécurité, parce que vous vivez constamment barricadé pour être certain d'être en sécurité, presque toutes les semaines, j'entends des histoires en jasant avec des gens qui se joignent à l'Église, qui viennent de ces pays où c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Justement, une sécurité. Il y a cette aspiration dans le cœur humain d'avoir un gouvernement qui nous apporte de la justice, de la paix et où on peut s'établir. Puis toutes les formes de gouvernement, d'une manière ou d'une autre, à part une dictature, on s'entend, cherchent à réaliser cela. C'est vrai. Le communisme, c'est quoi l'idée? On va mettre toutes choses en commun, puis on va redistribuer ça pour que chacun ait sa part. Et l'idée, donc l'idéal derrière le communisme, est extraordinaire. L'idée est merveilleuse. On va s'assurer que tout le monde en a, puis qu'il y en a pour tout le monde. D'accord? C'est quand même ça l'idéal. Le socialisme, c'est quoi? On veut pas que l'État gouverne tout, mais il faut que l'État s'assure qu'il y en a pour tout le monde, répartisse un peu la richesse. Vient après la démocratie, puis là on peut être plus à gauche, plus à droite, mais c'est quoi la démocratie? On dit non, on peut pas tout laisser entre les mains de certaines personnes, il faut s'assurer qu'on peut les mettre de côté de temps en temps lorsque la corruption commence à s'installer, puis là il y a toutes sortes de choses, hein. Fait que la démocratie peut conduire à un super populisme, c'est un peu ce qu'on voit actuellement dans le monde, dans plusieurs pays, c'est un peu ce qu'on voit aux États-Unis, une espèce de populisme à l'extrême, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe là? C'est une réaction. C'est une réaction contre une élite politique qui était peut-être déconnectée de la réalité du peuple, d'accord? Donc, il y a pas de système parfait et tous les systèmes, d'une manière ou d'une autre, reflètent le fait qu'on est, dans le fond, des êtres déchus, puis on va toujours profiter un peu du système à notre avantage. Mais peut-être que la démocratie, c'est le meilleur système. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas une journée de l'année qui passe sans que je bénisse Dieu de vivre dans le pays où je vis. Je crois, honnêtement, je pense que c'est vrai. Je pense que tous les jours de ma vie, j'ai cette action de grâce-là dans mon cœur de vivre dans un pays où il y a quand même une belle sécurité puis beaucoup de belles possibilités, mais il n'y a pas de système parfait. C'est Winston Churchill qui disait ceci. Je vais le lire en anglais, juste pour avoir la version originale, puis je vous le donne en français après. En parlant de la démocratie, il disait « Democracy is the worst form of government, except for all others ». C'est bon? La démocratie est le pire mode de gouvernement à l'exception de tous les autres. Ça va? Donc, il n'y a pas de système parfait. Mais quel que soit le pays où tu vis, à moins que tu sois sous une dictature, les formes de gouvernement qui sont mises en place visent quelque chose. Offrir au peuple de la sécurité. Offrir au peuple une gouvernance qui va nous permettre de vivre en paix et en sécurité. Et ce psaume-là nous parle d'un roi juste. En fait, ce roi-là, c'est Dieu. Et donc, il nous parle d'un roi qui va venir pour restaurer la justice. Et c'est ça l'idée qu'il y a dedans. Il y a vraiment deux idées principales à l'intérieur du psaume. Il y a le roi qui délivre, la délivrance qui vient du roi, et il y a le roi qui gouverne, qui juge. D'accord? Et il y a vraiment ces deux éléments-là. Donc, un bon roi juste va délivrer son peuple des injustices, va délivrer son peuple des oppresseurs, va protéger le faible. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger. Il va régner avec autorité. Il va gouverner. Il va trancher. Il va condamner dans des situations où il y a de l'injustice. Et c'est ça qui nous est dépeint. Dieu pour roi. Plus un homme corrompu, plus quelqu'un qui s'arrache les rênes du pouvoir, puis qui se dit, bon, OK, on vit dans le plus meilleur pays du monde, le Canada. Mais en même temps, tu sais que c'est comme... Ouais, il y a quand même la corruption qui est un peu là. Tu dis, je sais pas vraiment s'ils prennent les meilleures décisions. Et là, l'image qui nous est donnée, c'est celle où Dieu vient lui-même pour régner. Alors, l'idée d'un roi qui vient, qui règne avec justice, c'est super intéressant. Si ce roi-là est juste, s'il est droit, il a tous les pouvoirs pour intervenir, il va pas être pris dans la bureaucratie, il va être capable de trancher. Mais ce qui vient avec ça, l'autre pendant qui est plus inconfortable pour nous comme occidentaux, c'est qu'il s'en vient pour juger. Il s'en vient pour juger. Et là, imaginez tout d'un coup que tout ce qu'il y a de fourbe, tout ce qu'il y a de faux, tout ce qu'il y a de mensonger, juste dans l'économie populaire au Québec, tout d'un coup, tout serait dévoilé. Il n'y a plus rien en dessous de la table au Québec. Je ne sais pas si le système tient debout. J'ai pas la moindre idée. Donc, est-ce qu'on doit craindre un roi qui vient pour juger? Et c'est fascinant parce que la première fois que j'ai lu ce psaume-là, 98, avec des dirigeants de louanges de l'Église, j'allais juste relever à la fin, j'ai dit, il y a un malaise, hein? Puis les gars, spontanément, c'était comme, ben ça allait bien jusqu'au dernier verset, tu sais? Puis là, on arrive avec cette affaire-là qui s'en vient juger. Est-ce qu'on doit craindre ces jugements? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Ben, je vous pose une question, on va faire un petit peu d'histoire biblique, d'accord? Faire un petit peu d'histoire biblique. Quand Israël commence à chanter au début du psaume 98, verset 2, « L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. » Quand Israël pense à délivrance de la part de Dieu, dans son histoire, quand le peuple d'Israël pense à délivrance de la part de Dieu, quel est le moment le plus important dans leur histoire? Sortie d'Égypte, évidemment. Hein? Israël n'est pas vraiment un peuple, c'est une descendance, ils sont nombreux, mais ils ne sont pas constitués, ils sont esclaves en Égypte, c'est le « cheap labor » de la place, d'accord? Et donc, on les tolère, mais à peine. Et puis, Dieu va les libérer. Et donc, ils pensent délivrance, évidemment. Maintenant, lorsqu'on pense à ce moment-là dans l'histoire de l'Égypte, à ce moment-là dans l'histoire d'Israël, est-ce que l'image, la seule image qui est présente, c'est la délivrance? Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'image du jugement? Est-ce qu'il n'y a pas un jugement sur le peuple égyptien à ce moment-là? Il y a un jugement sur le peuple égyptien. Dieu vient et juge l'Égypte à ce moment-là sévèrement. Il les avertit, il leur dit « Laisse aller mon peuple, ils veulent pas des plaies. » Et finalement, la dernière plaie va être terrible, d'accord? Et donc, il y a à la fois un jugement qui est présent sur le peuple égyptien, puis il y a une délivrance pour Israël. Est-ce que ça veut dire que le peuple d'Israël n'avait pas à craindre Dieu, à craindre les jugements de Dieu? Comment ça se fait que le jugement qui s'abat sur l'Égypte ne touche pas les Israélites? Comment est-ce qu'ils font pour se mettre à l'abri de ça? Ils vont offrir un sacrifice. Et puis avec un agneau, puis ils vont mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient décidé de ne pas le faire, puis dire nous, Dieu vient pas nous juger, il vient nous délivrer. Dieu vient, nous on est des justes. Qu'est-ce qui se serait passé? Alors voyez-vous, Dieu est un juste juge, et si Dieu ne frappe pas Israël à ce moment-là, c'est parce qu'il leur fait grâce. C'est parce qu'il leur fait grâce, c'est parce qu'il les délivre. Mais en réalité, juifs, descendants de Jacob ou égyptiens, tous des pécheurs. Et lorsque Dieu vient au milieu de ces nations-là, s'ils doivent comparaître devant Dieu avec leurs propres œuvres, avec leur propre justice, les juifs ne valent pas mieux, les israélites ne valent pas mieux que les égyptiens. il aurait été jugé aussi sévèrement, leur premier-né serait mort aussi. Et c'est simplement parce qu'ils ont été couverts. Il y a un beau passage dans le Nouveau Testament où des Juifs qui avaient oublié qu'ils étaient des pécheurs eux aussi amènent une femme qui a été surprise en adultère vers Jésus, puis ils veulent y régler son compte, puis en fait ils veulent faire un deux pierres d'un coup, ils veulent que Jésus se prononce, puis peut-être se rende aux dieux, et puis ils demandent à Jésus qu'est-ce qu'on fait avec elle. On lit dans Jean 8, versets 7 à 9. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés, peut-être que ça prend l'âge pour réaliser ça, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Lorsque Dieu est venu visiter l'Égypte dans l'Ancien Testament, si les Israélites n'avaient été couverts par la grâce de Dieu, ils auraient été frappés aussi sévèrement que les Égyptiens. Est-ce qu'on doit craindre? Est-ce qu'on doit craindre la venue d'un roi juste qui vient pour juger? Voyez-vous, ce psaume-là que Isaac Watts a mis en poème pointe constamment vers la venue de Jésus-Christ. Au moment où le psaume est écrit, on est dans un moment de tension dans l'histoire d'Israël parce qu'ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, mais ils attendent le Messie, le deuxième Moïse qui doit venir. Et ils l'attendent pour qu'il vienne avec justice. Ce psaume-là pointe vers la venue du roi des Juifs qui doit venir. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on tombe sur des passages où on voit cette idée qui vient se résoudre dans la personne de Jésus. Dans Luc 2, 28 à 32, voici ce qu'on lit. Il y a un vieillard. C'est drôle, hein? C'est comme une thématique ce matin. Il y a un homme âgé qui vient. Je ne veux pas dire que vous êtes un vieillard. Je n'ai pas dit ça. Siméon, qui attendait le Messie. Puis Dieu le bénit, Jésus est né, et on lit dans Luc 2, 28, « Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et si ça fait pas écho au psaume 98, là, si ça fait pas écho au psaume 98, c'est rarement aussi clair que ça. Dans la venue de Jésus-Christ, Dieu a apporté le jugement et la délivrance. Il venait pour sauver, il venait pour juger, mais il venait pour délivrer aussi. On lit dans Romains 1, 16, 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire de tous les non-juifs de la terre, toutes les nations de la terre, parce qu'en lui est révélé quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Lorsque Dieu vient visiter l'Égypte, si les Israélites ne s'étaient pas cachés derrière le sang de l'agneau, s'ils n'avaient pas mis le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes, ils auraient été frappés aussi sévèrement que les Égyptiens. Et Christ est venu, l'agneau parfait, offrir sa vie en sacrifice, afin qu'on puisse être pardonné. Un autre passage du Nouveau Testament dans Hébreux 10, 14 à 18. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Quand tu lis le psaume 98, puis c'est dans la joie, puis tout va bien, puis tu arrives au dernier verset, puis tu dis, « OK, attends un peu, là, il s'en vient pour juger. C'est-tu une bonne nouvelle? C'est-tu vraiment une bonne nouvelle? » Ben, si Dieu t'a premièrement gracié, parce que tu es comme un Égyptien ou comme un Israélien, comme un Juif ou comme un Grec, finalement, comme tous les hommes, tu veux peut-être pas comparaître avec ta justice devant le roi qui revient, mais s'il t'a gracié, s'il t'a pardonné, s'il t'a sauvé, et son retour, c'est juste des bonnes nouvelles. C'est juste des bonnes nouvelles, parce que tu sais qu'au moment où il va paraître, tu vas être couvert par sa grâce. Au verset 2, dans le psaume 98, je sais je me promène ce matin, mais je veux vous montrer tout ce volet tellement beau, tellement prophétique, puis on a tellement plus de raisons de louer Dieu comme chrétien avec le psaume 98 qu'Israël avait pour louer Dieu. Ils avaient aucune idée de ce qu'ils chantaient. Honnêtement, c'était juste comme s'ils avaient vu un tout petit morceau. On a tellement plus de raisons. Puis lorsqu'on arrive au verset 2 dans le psaume 98, « L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. » Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains? Cette justice s'est révélée en Jésus-Christ. Christ cloué sur le bois, à l'époque de l'Empire romain. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ annoncée aux nations par l'Église qui se répand partout sur la terre. Aujourd'hui, à travers des missionnaires partout sur la terre. Dieu a fait connaître, il a révélé sa justice à toutes les nations de la terre. Et cette justice-là s'est accomplie premièrement sur la personne de Jésus-Christ. Comme un agneau qui aurait été sacrifié et dont on aurait mis le sang sur les linteaux de notre porte, afin que lorsque le roi juste vient nous visiter, on soit gracié puis qu'on puisse vivre dans son pays. Comme des gens graciés, mais sous un bon roi juste, un gouvernement saint et juste. Et alors, je n'ai plus à craindre. Voyez-vous, tous les jours, quand je vais dans la prière, je peux commencer par la louange. Tous les jours, dans les mauvaises journées, dans les journées où il y a des épreuves terribles, où je suis déprimé, je peux commencer par la louange. Parce que si je suis chrétien, je sais une chose. J'ai déjà été sauvé. J'ai déjà été sauvé en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que j'attends? J'attends le retour du roi. J'attends le retour du roi où il va venir régner avec justice. Et tout ce qui produit de la souffrance dans ce monde, tout ce qui te prive de louanges, qui veut voler tes louanges sur tes lèvres, est résolu dans la personne de Jésus-Christ. Et dans son retour, toute la souffrance va disparaître et tous ceux qui sont en Jésus-Christ vont entrer dans ce règne-là avec ce roi. Donc, lorsque je vais dans la prière le matin, mon carnet de voyage où je vais me confier à Dieu puis placer devant lui les défis de la journée, ou quand à la fin de la journée, j'ai eu une journée tough, difficile à la maison, au travail, avec des amis, c'est juste dur, ou juste avec moi-même, je suis découragé de moi-même. Puis je me dis, c'est pas moi qui vais avoir dans son royaume. Ben oui, t'es peut-être pas mieux qu'un Égyptien ou qu'un Israélien, t'es peut-être un pécheur comme tout le monde, de toute évidence, mais si t'es en Jésus-Christ, t'as déjà été pardonné. Son retour, c'est juste des bonnes nouvelles. On attend son retour à ce moment-là. On lit dans Apocalypse 19:11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » C'est l'Apocalypse qui nous annonce la réalisation du psaume 98, dernier verset. Le roi vient et il règne avec justice. Et ce sont de bonnes nouvelles. Psaume 19, versets 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec la verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Si je sais qu'il est déjà mon roi, qu'il est déjà mon Seigneur, ce jour-là est glorieux, mes amis. Ce jour-là est glorieux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les autres? C'est vraiment intéressant. Le psaume 98, c'est une invitation à toutes les nations de la terre à chanter des louanges à Dieu. Il y a des psaumes que tu lis, il y a des psaumes où tu as le sentiment que c'est Israël qui dit « Nanananana, nous autres, on a été sauvés. » C'est vrai. Sérieux, il y a des psaumes, ça sonne un peu comme ça. Puis c'est correct. Il faut aller là parce qu'on veut devenir comme eux. Mais il y a d'autres psaumes comme celui-là où carrément, c'est une invitation à toutes les nations de la terre. Encore une fois, Israël avait aucune idée de ce qu'il était en train de chanter là. Parce qu'ils ne savaient pas comment ce serait rendu possible. Pour eux, c'est eux les descendants d'Abraham, c'est eux les descendants de Jacob. Ils ne réalisent pas encore qu'on est fils et filles d'Abraham lorsqu'on a la foi d'Abraham. Amen? C'est comme ça qu'on est des fils et des filles d'Abraham. Non par le sang, mais par la foi. Et donc, ce psaume-là est carrément tourné vers toutes les nations de la terre, puis c'est une invitation à toutes les nations de la terre. Venez chanter la délivrance de l'Éternel. Venez chanter des louanges. La louange des sauvés. Regardez les versets 1 à 3 du psaume. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. » Je vous dis, ils ne savaient pas ce qu'ils chantaient. Pour eux, c'était la sortie d'Égypte, c'était les moments de délivrance, mais boy, ils n'avaient pas vu la croix encore. Il a révélé sa justice aux yeux des nations, jamais comme en Jésus-Christ. Jamais. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Alors, d'une certaine manière, notre louange, c'est notre meilleur moyen d'annoncer l'Évangile. D'une certaine manière, un cœur qui est rempli de louange envers Dieu, pas seulement d'action de grâce. Vous savez la différence, hein? Action de grâce, remerciement. Merci Seigneur, j'ai un travail. Louange, qui est Dieu? Combien il est grand, combien il est beau, combien il est merveilleux. Mais Dieu est particulièrement merveilleux parce que Christ est mort sur la croix pour toi et moi. Et donc, d'une certaine manière, les louanges qu'il y a dans ton cœur, les louanges qu'on chante le dimanche matin, lorsque je commence ma journée dans la louange, en chantant ou en prière, mais les yeux fixés sur Dieu, c'est la meilleure manière de m'en aller dans l'évangélisation. Et vous le savez lorsque vous avez travaillé avec un collègue qui est un chrétien qui loue le Seigneur constamment. Ces gens-là, ils sont connus comme des flyés, c'est vrai, c'est des flyés, mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont flyés, ils ont les yeux fixés sur l'éternité. Ils sont pas toujours terre à terre, tu sais. Mais ces gens-là sont dans la joie. Leur espérance est en Dieu. Et donc, la louange que tu cultives dans ton cœur à cause que tu as été délivré, puis parce que tu attends le retour du roi, c'est probablement la meilleure préparation que tu peux avoir pour conduire tes enfants au Seigneur. Et crois-moi, lorsque ton cœur ne connaît pas la louange dans la prière, tes enfants savent ça. Ton mari, ton épouse sait ça. T'es un chrétien, mais tes collègues savent ça. Je vous dis pas ça pour mettre un fardeau sur vos épaules. Le remède est là. Détourne tes regards de toi-même. Fixe les regards sur Christ. Attends le retour du roi avec empressement. Il s'en vient bientôt. Le psaume se termine avec l'idée que toute la création attend le retour du roi. Regardez les derniers versets, versets 7 et 8. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. L'apôtre Paul nous dit, comme on le voit au début dans la Genèse, que toute la création, toute la nature, toute la terre, je trouvais ça intéressant, Derek Kidner disait dans un commentaire, il dit, dans le fond, les écologistes, sans nécessairement l'attribuer à Dieu, constatent la réalité de la malédiction. Et donc, Paul nous dit que toute la terre languit après le retour du roi. Qu'au moment du retour du roi, c'est pas simplement les enfants, les filles et les fils du roi qui vont se réjouir, mais tout l'univers va se réjouir parce qu'il va venir gouverner avec justice, avec droiture. La terre attend cette délivrance-là. La terre elle-même est dans cette louange-là. Chantez des louanges à la maison. Dites à vos enfants combien Dieu est juste et gracieux. Dites à vos enfants lorsqu'ils font face aux injustices du monde et réalisent qu'on vit dans un monde dur et injuste. Patiente, mon fils. Patiente, ma fille. Le roi s'en vient bientôt. Le roi s'en vient bientôt. Il va restaurer la justice. Il s'en vient gouverner avec justice. Et si tu t'es mis à l'abri de son sacrifice, t'as rien à craindre. T'as rien à craindre. T'as juste à te réjouir dans l'attente du roi. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On va chanter des louanges au Seigneur ensemble et j'espère que vos cœurs ont envie d'exalter Dieu. Amen! J'espère que vos cœurs ont envie d'exalter le Seigneur. Et cette semaine, lorsque vous allez dans la prière, allez-y pour pleurer. Allez-y pour gémir, allez-y pour vous confier en Dieu, mais allez-y pour louer Dieu aussi, pour célébrer l'Éternel. Et quand vous voyez que la vie est difficile, que la vie n'est pas facile, pensez au fait qu'en Jésus-Christ, vous avez été délivré, vous avez été sauvé, vous avez été racheté de vos propres injustices, de vos péchés. Et pour nous, qui sommes des fils et des filles de Dieu, on attend impatiemment le retour du roi. Et qu'est-ce qu'on veut faire en attendant? On veut chanter des louanges, parce qu'on invite les gens autour de nous, nos familles, nos enfants, nos collègues de travail, nos voisins, la ville de Longueuil. On invite les nations de la terre à se joindre à nous dans la louange pour exalter Dieu. Levez-vous, on va louer le Seigneur ensemble, on va prier l'Éternel. Père éternel, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te bénir, exalter ton nom, car tu es Dieu. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Tu domines toutes choses, Seigneur. Seigneur, tu as créé les cieux et la terre, mais tu n'as pas abandonné les hommes. Au contraire, Seigneur, tu as envoyé ton Fils qui est venu sur cette terre, lui qui était juste et saint, lui qui était le Fils digne par sa justice et sa droiture. Et il s'est offert en sacrifice comme cet agneau immolé sur cette croix. Afin que des nations injustes, des hommes et des femmes injustes, comme chacun d'entre nous ici, puissent se placer à l'abri de la croix, être graciés, être sauvés, premièrement de nos propres péchés, et attendre impatiemment, impatiemment le retour du roi, qui va venir gouverner dans toute sa gloire, avec justice et avec sainteté, qui va venir établir la justice sur cette terre. C'est en Jésus-Christ qu'on prie.